Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, qui c'est qui n'était pas là hier soir? Bon, vous avez vraiment loupé. Puis tant pis pour vous. Non, en fait, hier soir, pour moi, j'aime bien prendre toujours un petit temps pour qu'on raccroche les wagons, qu'on parte du même pied, quoi. Donc, hier soir, j'ai parlé un peu de mon parcours de chrétien, comment je me suis converti. Et puis, du coup, ben, Jésus m'ayant tiré des gangs, de la drogue, de la violence, je me suis senti redevable. Et puis, je voulais vivre pour lui. Donc, j'étais un zélé pour Jésus. Et puis, j'ai essayé, à chaque fois que je voyais une nouvelle consigne dans la Bible, j'essayais d'y obéir. Je priais, je jeûnais, je lisais ma Bible. J'étais vraiment un fondu de Jésus, quoi. Et puis, en 84, j'ai reçu l'appel pour le servir. Puis, j'ai commencé à le servir en 88. Et toujours à fond la caisse, je voulais vivre pour Jésus. Et puis, en 2002, j'ai fait une septicémie. Ça a très très mal tourné je peux dire, je suis mort. Ça fait bizarre toujours, hein, quand quelqu'un vous dit je suis mort et puis il est devant vous. Mais bon, en tout ça m'est déjà arrivé deux fois. Et puis pareil, jamais 203, donc il y aura peut-être une troisième. Si un jour ça me arrive, priez pas pour ma résurrection, sinon vous me verrez en colère. Non. Mais en tout cas, bon, ça m'est déjà arrivé deux fois. Et puis cette deuxième, j'ai rencontré Jésus, puis je l'ai vu comme je vous vois. Puis ça a été le tournant de ma vie. Alors que j'étais auteur, pasteur, conférencier, il y avait du succès dans le ministère, tout semblait aller bien, il y avait des applaudissements sur terre. J'étais un des orateurs à la mode dans les années 98 à 2002. D'un seul coup, je me retrouve devant Jésus et puis, oh là, les applaudissements qu'il y avait sur terre, il n'y avait pas les mêmes au ciel. À première vue, je n'avais pas impressionné le ciel avec toutes ces histoires. Et puis là, il a remis les pendules à l'heure, quoi. Il a vraiment remis les pendules à l'heure et puis à un moment, il m'a dit « Arrête de prier pour un réveil, parce que ce n'est pas un réveil que j'ai pour vous, c'est une réforme. » Et après, il m'a dit « Je vais changer la compréhension et l'expression du christianisme en une génération. » Et en fait, le thème de la vie remplacée, ça touche en plein ce cœur de la réforme. J'ai compris, nous, on voudrait trouver la formule de l'Église qui change la ville, l'Église qui a de l'impact. On voudrait changer l'expression, puis on cherche comment avoir des réunions qui soient pertinentes, qui aient de l'impact. Et puis le Seigneur, il a clairement dit, il n'y aura pas de changement d'expression avant qu'il y ait eu un changement de compréhension. Et on a besoin d'une réforme théologique, on a besoin de changer ce que l'on croit pour que ça transforme ce que l'on vit. Et quand on va avoir transformé ce que l'on vit, forcément la structure, elle va changer aussi. Mais il faut qu'on commence par le commencement. Une réforme de cœur, une réforme de ce que l'on croit. Et cette vie remplacée, c'est tout un concept où c'est une autre lecture de la vie chrétienne, c'est une autre lecture du salut. Et je me suis rendu compte que j'ai passé des années à essayer de vivre pour Dieu, alors qu'il ne le demandait même pas. Je suis arrivé au ciel. Et je me suis rendu compte qu'au ciel, ils n'en avaient rien à faire de ma vie chrétienne, de mes progrès de vie chrétienne, parce que ce qui comptait, ce n'était pas ma vie chrétienne, parce que la vie chrétienne, c'est encore mon moi qui se christianise, c'est encore mon moi qui prend des habitudes chrétiennes, c'est encore mon moi qui prend un langage chrétien, c'est encore mon moi qui s'immiscie dans les affaires de Dieu, alors que ce qui intéressait Dieu, ce n'est pas que mon moi fasse des progrès dans le christianisme, ce qui intéresse Dieu, c'est que ce soit la vie de Christ qui se développe en moi. Puis par la même occasion, en toi aussi. Hein, c'est pas juste pour moi, hein, c'est aussi pour toi, quoi. Et du coup, j'ai vu le concept pendant que j'étais au ciel, j'ai essayé de l'appliquer sur terre, mais j'ai appris la leçon vraiment, vraiment dans la douleur. Je racontais ça aussi hier soir, et puis après, je passe à des choses nouvelles. Mais c'était en 2006... J'étais dans le sud de la France et ma femme m'appelle et puis elle me dit « Je suis obligé d'emmener notre fille à l'hôpital, elle ne peut plus avaler même pas sa salive. » Et puis moi j'arrive vite, je prends le train, puis le chirurgien il dit « On a fait un examen, il y a trois grosseurs dans la gorge, on va l'endormir, faire une biopsie, puis on va prélever, puis après vous pourrez la rejoindre dans la salle de réveil. Et en fait, ils ne nous ont jamais appelés pour qu'on descende, c'est eux qui sont montés, avec plein d'infirmières. Il a dit, il faut que je vous parle, et puis il nous a emmenés dans son bureau. Puis ça, c'est plutôt mauvais signe, quoi. Puis le chirurgien, il a été cash, il a dit, votre fille a le cancer. C'est sûr, donc préparez-vous à un traitement lourd. Et là, alors que j'ai vu des dizaines et des dizaines de cancers guéris, j'ai vu des miracles, mais il y a des miracles, si je vous les disais, ça serait une occasion de chute pour vous, parce que vous ne me croiriez pas. Mais j'ai vu Dieu agir sans limite, quoi. Mais ce jour-là, ça ne me servait à rien. Ça ne me servait à rien. C'était ma fille qui était là dans le lit. Et puis, on m'annonce ça. Et puis, en même temps, il y avait... Ça va peut-être être dur à comprendre ce que je veux dire, mais il y avait comme un guet-apens spirituel pour moi. Et j'ai pris le choc. J'ai été brûlé ici. Ça a été terrible, hein. Je suis rentré à la maison. Entre-temps, ma fille, elle a vomi, elle a fait sauter les poings. Tout était catastrophe, quoi. Puis je suis rentré à la maison, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à boire. Et puis, catastrophe, j'arrivais plus à prier non plus. J'arrivais plus à lire ma Bible, j'étais brûlé, j'étais grillé, j'étais complètement cuit, quoi. Et j'essayais de survivre. Fallait que je m'occupe des deux autres qui restaient à la maison. Ma femme dormait la nuit à l'hôpital, moi je la relayais la journée. Puis franchement, c'était une période qui n'était pas facile. Et franchement, j'arrivais plus à rien faire, hein. J'étais hors service. J'ai senti physiquement une brûlure ici, puis j'étais détruit. Et il y a un verset pendant ces jours-ci qui est monté, et c'était Galates 2:20. J'étais crucifié avec Christ, et maintenant c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et puis ce verset-là, au moment où il est monté, j'ai pris la Bible, je l'ai lu, puis ça a provoqué quelque chose. J'ai senti de la vie. Donc je l'ai redit, et puis je l'ai redit, puis je l'ai redit. Ça, c'est comme si ça bâtissait ma vie, ça bâtissait ma foi. Et d'un seul coup, j'ai changé ma façon de parler. J'ai dit maintenant, c'est plus moi qui visite ma fille à l'hôpital, c'est Christ qui vit en moi. Puis c'est plus avec ma foi. C'est avec la foi du Christ qui vit en moi. Puis c'est plus moi qui prie pour ma petite fille. C'est Christ qui vit en moi. Et puis j'ai petit à petit, j'ai cédé la place. C'était plus moi, c'était Christ. Et je l'ai appris dans la douleur, la leçon. Mais 3 semaines plus tard, ma fille était complètement guérie, physiquement et psychologiquement. Ils n'ont jamais pu expliquer ce qui s'était passé. En tout cas, nous, on sait. Mais la leçon, je l'ai retenue. Puis je veux continuer à vivre dans cette dynamique. Ce n'est plus moi, c'est Christ. Amen. C'est plus moi, c'est Christ. Et en fait, c'est le principe de la vie remplacée. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, l'Évangile nous parlait que de ça. Et moi, pendant des années, j'ai cru que je devais vivre pour Dieu et j'ai fait des efforts pour vivre pour Dieu. Je disais, Seigneur, je veux vivre pour toi. Et puis j'avais pas vu qu'en fait, lui, il voulait vivre sa vie au travers de moi. Mais il ne m'a jamais demandé de vivre pour lui, quoi. Il ne m'a jamais demandé d'adhérer à la religion chrétienne. Il m'a demandé de vivre le christianisme biblique. Et moi, je fais une très grosse différence entre la religion chrétienne et le christianisme biblique. Si on se place sur le terrain de la religion chrétienne, elle n'est pas meilleure que les autres. Vous êtes d'accord? Ça encourage l'effort humain, ça encourage l'hypocrisie, ça encourage toutes les choses qui ne sont pas bonnes. Et la religion chrétienne n'est pas meilleure que les autres religions. Il n'y a aucune religion qui est bonne, de toute façon. Par contre, le plan de salut que Dieu nous propose, celui-là, il est bon. Il est vraiment bon. Et ce que j'ai découvert, c'est que le plan de salut qu'il nous propose, ce n'est pas un plan d'auto-amélioration où Dieu il te fait naître de nouveau, puis après, il te dit, bon, tu vas avoir le Saint-Esprit avec toi, tu peux collaborer avec lui. Allez, améliore ta vie maintenant. Essaye de plus pécher, témoigne, sois un bon frère, sois une bonne sœur. Enfin, vous comprenez ce que j'ai voulu dire. Mais moi, j'ai cru que c'était ça, que le Saint-Esprit, il était là pour m'aider, pour être un bon chrétien. Mais Dieu, il n'a jamais voulu que je sois un bon chrétien. Il a voulu que je sois mort en Christ pour que Christ puisse vivre au travers de moi. Et ça, c'est la réforme théologique. Parce que ça change tout. Si tu vis une vie chrétienne en pensant que tout est entre tes mains, et puis que c'est encore toi qui vis, puis que tu dois diriger ta vie dans la direction de Dieu, écoute, j'ai une prophétie pour toi. Ainsi parle le Seigneur, je vois un grand mur, tu avances à fond la caisse, tu vas te le prendre, tu vas te péter le nez. Puis cette parole va s'accomplir. Non, c'est pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller loin comme ça. si on essaye nous-mêmes de vivre pour Dieu, par nos propres ressources, par nos propres forces, on va droit à la catastrophe. Il va y avoir un moment où il va falloir qu'on perde nos illusions sur nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça? C'est tellement important. Puis je me suis rendu compte aussi que Paul, il nous parle d'un grand mystère, Galates au chapitre 2, verset 17, il dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Puis c'est ce Christ que nous vous annonçons. Puis en fait, je me suis aperçu que ce que Paul prêchait, le Christ que Paul prêchait, c'était Christ en nous, c'était pas Christ dans le ciel, c'était pas Christ à la droite de Dieu. Non, le Christ que Paul prêchait, c'était Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il n'y a aucune autre espérance de la gloire que Christ en nous. Mais la plupart du temps, avant qu'on découvre Christ, on découvre la crise. On passe comme par une crise où on va perdre nos illusions sur nous-mêmes, nos illusions sur la religion. Il faut qu'on arrive à un moment où on se rende compte, tout ça c'est stérile. On ne vit pas la vie en abondance que Jésus a promis. On ne fait pas les mêmes œuvres que lui, alors encore moins les plus grandes, quoi. Puisque, après ce que j'ai partagé aussi, c'est que la Bible nous dit de faire les mêmes œuvres que Jésus. Jésus dit que c'est possible. Puis, du coup, on voit tout ce que Jésus a fait, puis on va essayer de l'imiter. Donc il a fait des nuits de prière, il faut qu'on se fasse des nuits de prière. Wow, c'est dur ça, hein. Puis il a pris des temps de jeûne, alors on va prendre des temps de jeûne. Puis il guérissait les malades. Puis là, franchement, c'est moins facile à suivre, quoi. Parce que si j'impose les mains en mon propre nom, j'ai même pas la puissance de délivrer une mouche de sa migraine, quoi. Alors comment on peut faire les mêmes œuvres que lui, quoi? C'est dur. Alors purifier les lépreux, chasser les démons, ressusciter les morts, t'y penses même pas, quoi. Et là, tu te retrouves dans une impasse. Tu te dis, mais alors comment c'est possible? Comment c'est possible? Et d'un seul coup, la Bible s'ouvre et puis tu te rends compte, c'est facile d'imiter Christ, si tu lis bien la Bible. Jésus dit lui-même, les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais. C'est le Père qui m'a envoyé, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Il dit dans l'évangile de Jean, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait rien de lui-même. Et là, d'un seul coup, tu découvres un Jésus qui ne peut rien faire et qui ne fait rien. Et ça, d'un seul coup, c'est plus facile à imiter. Vous êtes d'accord? Qui c'est qui se sent incapable, qui ne peut rien faire? Levez les mains pour voir. Vous êtes qualifié. C'est pas une bonne nouvelle? Ah, moi, j'ai pas le ministère de culpabilité, hein. Moi, c'est plutôt pour la libération. Ça devient plus cool, quoi. Imiter quelqu'un qui ne peut rien faire, ça, c'est possible. Et puis Jésus, il a dit, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On est dans les mêmes conditions. Alors pourquoi on vit comme si ça dépendait de nous? Est-ce que vous me suivez? Regardez dans l'église primitive. T'as Pierre et Jean, ils disent, j'ai oublié mon portefeuille, j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Vous vous en rappelez de ça? Plus tard, Pierre, il explique, c'est ni par notre force, ni par notre piété qu'on a fait relever cet homme. La Bible, elle est claire. Ça n'a rien à voir avec ta piété. Ça n'a rien à voir avec ton temps de prière, ton temps de jeûne. On ne peut pas monnayer la puissance de Dieu. Ring-a-ding. Alors pourquoi on fait comme si ça dépendait de nous? Et pourquoi on laisse le diable nous accuser et puis nous dit « Tu lis pas assez ta Bible. Tu passes pas assez de temps. Tu pries pas assez. T'es pas assez saint. Ça fait pas assez longtemps. » Attends, franchement, je veux juste faire un sondage. Qui c'est qui prie assez ici? Devant votre enthousiasme, on va passer à autre chose. Non, mais en fait, c'est une question stupide. Vous avez remarqué que dès qu'on la pose, on se sent mal? Mais c'est quoi assez, au fait? Tant qu'on n'a pas la définition d'assez, on ne peut pas répondre à une question comme ça. C'est quoi assez? Parce que le diable, il te dira toujours que tu n'en fais pas assez. Tu lis pas assez ta Bible, tu pries pas assez, tu n'es pas assez saint. Qui c'est qui est assez saint ici? Mais il n'y a pas une histoire d'être assez saint. T'es saint ou tu n'y es pas, quoi. Point. Et puis, on n'est pas saint à cause de ce qu'on fait. On est saint à cause de lui dans nos vies. Vous êtes des saints. Vous tous qui êtes nés de nouveau, vous êtes déjà saints. C'est Saint Patrick qui vous le dit. Amenez la bière. Non, nous sommes déjà des saints. Ce n'est pas de l'humilité de dire « Oh, je suis un pauvre pécheur ». Non, ce n'est pas de l'humilité, ça. C'est de l'ignorance. Puis si tu te vois comme un pécheur, la vie naturelle d'un pécheur, c'est de pécher. Vous êtes d'accord? Par contre, si tu commences à te voir comme Dieu te voit, comme un saint, la vie naturelle d'un saint, c'est la sainteté. Et choisis ton camp. Donc, moi, je me suis rendu compte que ma théologie, elle allait devenir de plus en plus simple. J'ai compris cette réforme de théologie qui ramenait tout à Christ, quoi. Le plan du salut, c'est Christ au début, Christ pendant et Christ à la fin. Point. C'est pas mes efforts, c'est pas ma compréhension, c'est pas mon intelligence, c'est Christ. Puis maintenant, moi, je veux savoir qu'une chose, c'est Christ dans ma vie. Puis les trois quarts du temps, dans mon temps de prière, qu'est-ce que je cherche? C'est Christ en moi. C'est, je veux apprendre comment mourir en lui pour que lui puisse vivre au travers de moi. Amen. Puis là, on va aller un petit peu plus loin. J'en ai parlé ce matin. Donc ce matin, vous ne pouvez pas être là, mais vous n'avez pas tout loupé parce qu'il y a une partie que je reprends cet après-midi. Donc hier, j'ai parlé de ma vie d'effort pour vivre comme Jésus. Maintenant, je vais vous parler de ma vie de prédicateur. Puis certaines bêtises que j'ai prêchées puis que j'ai du mal à rattraper maintenant. Pendant des années, alors je sais, attendez la fin avant de me lapider, hein, mais le début risque d'être choc. Pendant des années, j'ai prêché qu'on était sauvés par la mort de Jésus. Pendant des années, je disais, Jésus est mort sur la croix pour toi, accepte-le et tu vas être sauvé. Et je pensais que c'était le credo évangélique, je pensais que c'était biblique. J'étais sûr et je l'ai fait pendant des années et des années. Là, j'ai vu, il y en a qui commencent à se regarder et disent, oh là là, où c'est qu'on a mis les pieds? Et puis un jour, mes yeux sont ouverts sur Romains 5, 10. Eh oui, parce que Romains 5, 10, c'est dans la Bible. C'est entre Romains 5, 9 et Romains 5, 11. Regardez bien. Et c'est écrit, alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés par la mort de son Fils. Maintenant, étant donc réconciliés par la mort de son Fils, à combien plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie? Écoutez bien, vous avez bien écouté là? Je le refais le mieux pour les malentendants. Alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés par la mort de son Fils. Maintenant que nous sommes réconciliés, à combien plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie? Vous avez saisi la petite nuance? Il y a un verbe qui est au passé et il y a un verbe qui est au futur. La Bible, elle est claire. Alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés. C'est fait. Ça fait partie du tout est accompli de Jésus. Il nous a réconciliés par la mort de son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort de son Fils ne nous sauve pas. La mort de son Fils nous réconcilie avec Dieu. Et une fois réconciliés, à combien plus forte raison serons-nous sauvés? Et ça, c'est au futur, c'est pas dans le tout est accompli. Serons-nous sauvés par sa vie? Et en fait, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot sauvé. Si pour toi, le salut, c'est le ciel plus tard, je vais tout de suite te rassurer. Je pense que être réconcilié, ça suffit pour passer. Ça, donc, j'attaque pas votre assurance du salut. Mais pour moi, le salut, c'est pas le ciel plus tard. Pour moi, le salut, c'est Christ maintenant. C'est vivre cette qualité de vie divine. C'est vivre la vie en abondance. Est-ce que vous êtes d'accord? Et cette vie en abondance, on ne peut pas la vivre juste à partir d'un statut de réconcilié. On ne peut pas la vivre juste en ayant mis notre foi dans ce que Jésus a fait sur la croix. La même qualité de foi qu'on a mis sur l'œuvre de Jésus sur la croix, on doit la mettre sur ce que Jésus veut être dans nos vies aujourd'hui. À combien plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie? Et c'est sa vie qui nous sauve, c'est pas sa mort. Sa mort nous réconcilie avec Dieu, c'est le premier pas, c'est le terrain sur lequel le salut va pouvoir grandir. Et moi, pendant des années, j'ai eu 20 ans de pastorat, j'ai installé les gens dans un statut de réconcilié. Et parce qu'ils étaient réconciliés avec Dieu, mais qu'ils ne vivaient pas le plein salut, qu'est-ce que ça a engendré? Une bande de frustrés, une bande de découragés, une bande de gens qui sont obligés de s'inventer des doctrines pour expliquer leur manque d'expérience. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis du coup, la Bible c'est bien beau, mais ma vie elle ressemble pas, quoi. Mais c'est normal, parce que c'est pas la mort de son Fils qui te sauve. Ça te réconcilie avec Dieu. Et des fois, tu peux être réconcilié avec Dieu, tu y restes 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, je regrette qu'on m'ait jamais dit que c'était pas sa mort qui nous sauvait, mais que c'était sa vie. Je le découvre là, au début du mois, ça fait 26 ans que Jésus m'a saisi. Ben, ça fait pas 26 ans que je le sais, ça. C'est sa vie qui nous sauve. Ringedingeding. Et quand c'est, dans le grec, quand c'est écrit « à combien plus forte raison serons-nous sauvés ?» Si on le traduisait littéralement, c'est « serons-nous sauvés et encore sauvés ?» Et continuerons-nous d'être sauvés ? C'est un temps à répétition. Je crois que le salut, c'est un chemin, c'est une voie sur laquelle on progresse. Moi, aujourd'hui, je suis plus sauvé que l'année dernière. Dans le sens, Christ vit plus en moi parce que j'y laisse de plus en plus de place. Christ est en conquête dans ma vie. Amen. Et j'espère bien que l'année prochaine, je serai encore plus sauvé que j'y suis aujourd'hui. Mais être réconcilié avec Dieu ne nous fait pas vivre le salut. Donc, je répète, hein, si le salut pour toi, c'est juste le ciel, réconcilié suffit, t'as ton passeport. Tu n'iras jamais au ciel avec ton passeport pentecôtiste ou ton passeport baptiste ou ton passeport catholique. Si tu as juste ce papier-là, tu ne passes pas. Par contre, si tu as ton passeport né de nouveau, si tu as ton passeport réconcilié avec Dieu, là, tu es sauvé dans ce sens-là. Ce n'est pas une appartenance à une étiquette ou à une église qui nous sauve. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui nous sauve, c'est Christ. Ce n'est pas une dénomination qui est morte sur la croix pour nous, c'est Christ. Et c'est important qu'on remette les choses à leur place. Donc, ce n'est pas une appartenance à une couleur, à une dénomination qui nous sauve. C'est le fait d'être né de nouveau, c'est le fait d'être réconcilié avec Dieu. Maintenant, si le salut, ce n'est pas seulement ton assurance vie après la mort, mais que c'est aussi vivre cette vie en abondance que Jésus a promis, vivre Christ sur terre, et là, je veux juste te dire une chose, réconcilier ne suffit pas. Tu as besoin d'avoir la foi dans ce que Christ veut être dans ta vie. Tu as besoin que Galates 2:20 ne devient pas juste une confession de foi, mais une confession de vie. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Amen. Et vous ne trouvez pas que ça change tout? Ça change vraiment tout. Moi, depuis que j'ai découvert ça, c'est ma vie, elle a mis un turbo. Là, j'ai un turbo sur ma vie maintenant. Parce que ça change tout. Avant, j'étais dans mon état de réconcilier avec Dieu et j'essayais de vivre comme un sauvé. Mais ce n'est pas la foi dans ce que Jésus a fait qui me sauve. Par contre, depuis que je détourne mes regards de moi-même et de mes efforts et que je les fixe sur Jésus en moi, sur le Christ qui vit en moi, mais je peux te dire, sa vie, elle est en conquête dans ma vie. Et là, il se passe des choses mais merveilleuses. C'est ma vie, elle change du tout au tout. Je sais que ça peut déstabiliser certains, mais j'ai tendance à dire aujourd'hui, Jésus m'a saisi en 83, puis après je suis devenu pasteur, puis pendant que j'étais pasteur, je me suis converti en 2002. C'est tellement violent, c'est tellement spectaculaire que c'est pratiquement ça. Ring-a-ding. C'est pratiquement ça. C'est la découverte que j'ai faite sur la vie remplacée, ça a apporté dans ma vie un aussi grand bouleversement que la conversion quand je suis passé de punk à chrétien. Et bien là, de passer de chrétien à fils de Dieu, le bouleversement, il est au moins aussi grand. Au moins aussi grand. Et puis Paul, il est clair, il dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Il n'y a pas d'autre espérance de la gloire que Christ en nous. Pas besoin d'attendre un réveil pour l'espérance de la gloire. Pas besoin d'attendre un prédicateur pour l'espérance de la gloire. Pas besoin de récolter le fruit de ses efforts pour l'espérance de la gloire. La seule espérance de la gloire qu'on a, c'est Christ en nous. Il n'y a pas d'autre espérance de la gloire. Amen. Voilà, là on est tout le monde d'aplomb. On peut passer aux choses nouvelles. On va prendre la Bible quand même, ça fera un peu plus chrétien. Hein. Dans Genèse 17, si vous n'avez pas vos Bibles, mettez-vous à côté d'un vrai chrétien qui a sa Bible. Ah, je rigole, je vais vous la lire. Dans Genèse 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Waouh ! Genèse 17, 1. « Je suis El Shaddai. » C'est beau ça, hein ? Il y en a même, ils ont fait des chants avec des noms comme ça. C'est beau ça, El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. La plupart du temps, c'est traduit le Dieu Tout-Puissant. Alors, on va faire un petit peu d'hébreu, ça vous va ? El. Bah non, ça veut dire le puissant déjà. On le comprend comme Dieu, mais c'est dans le sens celui qui est puissant. Donc, c'est déjà compris dedans. Et maintenant, Shaddai. Shaddai, la racine du mot Shaddai, c'est Shad. Shad, ça veut dire le saint. Pas Simon Templar, pas le saint comme ça, quoi, mais le saint comme ça. Ah, là je vois que t'as compris. Le saint, la poitrine. Et en fait, le mot est tiré de cette racine. Et c'est comme si Dieu disait, et ce n'est pas un blasphème ce que je vais dire, mais c'est comme si disait Abraham, je suis la mamelle céleste. Non mais c'est vrai, c'est pas rigolo. Je suis la mamelle céleste, toi t'es faible, mais moi je suis fort, tu peux puiser ta force en moi. Hey. Et en fait, ça serait mieux traduit, pas par tout puissant, mais tout suffisant, comme le sein d'une mère l'est pour son bébé. En fait, c'est une révélation de Dieu. Dieu, il veut être pour Abraham tout ce que le sein d'une mère est pour son bébé. La sécurité, la provision, je l'ai déjà dit, la sécurité. Mais vous saisissez où je veux en venir ? Et en fait, Dieu, il se présente comme ça. Je suis le tout suffisant. Je suis le tout puissant. Waouh ! Maintenant, réfléchissons bien. C'est écrit, il est le tout puissant. Hop là, il marche. C'est écrit, il est le Tout-Puissant. Ben moi, pendant longtemps, vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis dit, hey, s'il est le Tout-Puissant, ça veut dire quand j'ai besoin de puissance, je vais lui demander de m'en refiler. Et en fait, je lisais mal la Bible. Regardez bien le texte, ce n'est pas écrit qu'il a la Toute-Puissance, c'est qu'il est Tout-Puissant. Hey, ça fait une énorme différence. Parce que s'il a la puissance, quand j'en ai besoin, je peux la lui demander. Mais s'il est la toute-puissance, quand j'en ai besoin, eh ben j'ai besoin de lui. Est-ce que vous voyez la petite différence ? Et il y a plein de fois, on vit avec Dieu comme si ses attributs étaient indépendants de lui, puis on lui demandait de nous en refiler. Tu as besoin de sainteté, Seigneur, donne-moi de la sainteté. Tu as besoin de sagesse, Seigneur, donne-moi de la sagesse. T'as besoin de puissance, Seigneur, donne-moi de la puissance. Mais regardez bien dans les épîtres. Christ a été fait pour nous puissance et sagesse de Dieu. Il a été fait pour nous rédemption. Vous êtes d'accord ? La Bible dit, il est ma paix. Waouh ! C'est pas, il a la paix. Et plein de fois, on demande à Dieu de nous donner quelque chose, alors que notre plus grand besoin, c'est pas quelque chose, c'est lui. Si tu l'as, lui, tu as tout ce qui va avec. Vous saisissez où je veux en venir ? Et ça fait une énorme différence, hein, entre le « je suis le tout-puissant » ou « j'ai la toute-puissance », il y a une énorme différence. Et moi, pendant des années, j'ai prié que Dieu me donne des choses, alors que ce que j'avais besoin, ce n'était pas de ces choses, c'était de lui. Tant, c'est Christ, ma sainteté. Amen. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas mes progrès. C'est Christ ma sainteté. C'est Christ ma puissance. C'est Christ ma sagesse. C'est Christ ma paix. Psaume 87:7, il est écrit, toutes mes sources sont en toi. C'est beau ça comme verset. Hein ? Toutes mes sources sont en toi. Et ben moi, depuis 2002, mon travail, vous savez ce que c'est ? C'est de faire de la plomberie spirituelle. Je regarde où sont branchées mes sources. Puis toute source qui n'est pas branchée en lui, je la débranche et je la branche en lui. Puis là, du coup, je me suis amené à me poser beaucoup de questions. Quelle est la source de ma paix ? Mon compte en banque ou lui ? Est-ce que vous saisissez ? Quelle est la source de ma joie ? Les circonstances ou lui ? Et en fait, je me suis rendu compte que je lui avais donné toute ma vie, puis je proclamais qu'il était toute ma vie, mais qu'il y avait plein de sources qui étaient branchées à l'extérieur de lui. Vous vous reconnaissez sur la photo ? Je me suis rendu compte que ce qui sortait de ma bouche, ce n'était pas réellement ce qu'il y avait dans ma vie, quoi. Et le psaume 87,7, c'était une belle confession, mais franchement, ce n'était pas forcément le reflet de ma vie. Et en principe, ça devrait être la vie normale chrétienne. Toutes mes sources sont en toi. Moi, la source de ma puissance aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié, beaucoup jeûné, que la puissance va se manifester. Si Christ est ma puissance, waouh, comme il ne change pas, la puissance va être la même aujourd'hui, quoi. Amen. Et là, j'ai appris à retirer mes yeux de moi-même. Parce que des fois, en tant que chrétien, on a tellement nos yeux fixés sur notre nombril qu'au moins celui-là, on ne peut pas nous le voler. Hein. On a toujours les yeux fixés dessus, on est... J'ai appris à détourner mes yeux de moi-même et les fixer sur lui. En fait, ce que j'ai besoin, c'est d'une plus grande conscience de lui et d'être moins conscient de moi-même. C'est de ça que j'ai besoin. Et moi, j'ai saisi une chose, c'est que je cours plus après les efforts pour essayer d'être un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est un chrétien mort. Amen. Mort en Christ, bien sûr. Mais un bon chrétien, c'est un chrétien mort. Tant que tu es bien vivant, tu n'es pas un bon chrétien. Ring-a-ding-a-ding. Un bon chrétien, c'est un chrétien mort. Mort à lui-même, mort au monde. Il est mort en Christ pour que Christ puisse vivre au travers de lui. Et je répète, le plan du salut, et je le dis souvent à ce moment-là, parce qu'il faut que ça rentre, ce n'est pas un plan d'auto-amélioration. Où toute ta vie chrétienne, ta sanctification, tu fais des efforts pour t'améliorer. Oh, je suis content, aujourd'hui je prie plus que l'année dernière. Et après? Oh, cette année j'ai témoigné plus que l'année dernière. Et après? Tu crois que tu impressionnes le ciel? Oh, je suis content parce que j'arrive à prier 2 heures en langue par jour. Si tu peux parler en langue jusqu'à ce que tes yeux s'allument, tu ne vas pas transformer le monde, quoi. C'est pas ça qui compte. Et on a tellement nos yeux fixés sur nous-mêmes, puis sur ce que l'on fait. Alors que la Bible nous dit clairement de détourner nos regards pour les fixer sur lui, qui est l'auteur de notre foi, c'est lui qui l'amène à perfection. Ring-a-ding-a-ding. Et en fait, tout ce thème de la vie remplacée, je vais juste vous dire, si vous écoutez bien entre les lignes, eh ben, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que ça retire tout le poids de nos épaules. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigué, rincé, brûlé, énervé, frustré, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est cool, il est léger. Et apprenez de moi. Et c'est quoi prendre le joug de Jésus? Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est quoi un joug? Quand on met un joug sur un bœuf, c'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse tracter quelque chose et c'est pour qu'on puisse le conduire. Vous êtes d'accord? Quand il dit « prenez mon joug », en fait, c'est une façon poétique de dire « laissez-vous conduire par moi ». Quoi. Puis après, il dit « apprenez de moi et vous trouverez du repos pour vos âmes ». Waouh! Et moi, pour moi, la plus belle chose qui peut nous arriver, c'est de rentrer dans le repos. Quoi. C'est quoi rentrer dans le repos? C'est pas devenir feignant. C'est pas de devenir paresseux. Non, mais rentrer dans le repos, c'est le laisser faire lui. Être pour lui comme un vêtement dans lequel il est libre d'agir. Mais Christ veut se servir de toi, il veut s'incarner de nouveau en toi. Mais il ne t'a jamais demandé d'essayer de faire les mêmes œuvres que lui par tes propres forces. Et le plan du salut, c'est une vie remplacée. C'est Christ qui vient dans ta vie. Et puis comment il vient dans notre vie? Eh bien, il vient par le Saint-Esprit. À quoi ça sert le Saint-Esprit? Question pour un champion. Tous à vos champignons. À quoi ça sert le Saint-Esprit? Le rôle numéro un du Saint-Esprit, c'est nous communiquer la vie de Christ. Point. Quand il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous et vous en moi. Il parlait de la Pentecôte. En ce jour-là, vous connaîtrez, le mot grec là, c'est vous expérimenterez que je suis en vous et vous êtes en moi. Quel est le premier rôle du Saint-Esprit? C'est de nous communiquer la vie de Christ, de rendre Christ dans nos vies quelqu'un de concret, quelqu'un de réel, pas juste une croyance. Amen. Eh, mais vous savez quoi? Ça change tout. Ça change tout. Moi, maintenant, je suis mort à la religion chrétienne. J'en veux plus. J'en veux plus. Je suis mort à mes efforts. Je ne vais pas avoir une médaille parce que je prie beaucoup. Quoi. Moi, la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est Christ en moi. Et depuis que, et je répète, hein, je l'ai dit ce matin, pour moi, c'est, ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis en train de découvrir, que je suis en train de le vivre. Donc, bien sûr, vous pouvez me poser des questions que je ne pourrais pas répondre. C'est moi, je viens juste de découvrir ça. Je suis comme un des espions que Moïse il envoie en terre promise et puis il revient avec la grosse grappe. Hey, regardez les gars, il y a du gros raisin là-bas. Et puis, on n'est pas capable de tout expliquer. Mais en tout cas, le peu que j'ai vécu de l'autre côté, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Pour rien au monde. Parce que Christ en moi, ça m'a libéré de la crainte des hommes, ça m'a libéré de la servitude, ça m'a libéré de la compétition, ça m'a libéré de la performance. Vraiment, c'est beaucoup plus cool, quoi. Et en même temps, et ça c'est le paradoxe, j'en fais moins et lui, il en fait plus. Et depuis un an qu'on ne s'est pas vu, si je commençais à vous dire tous les miracles que j'ai vus, comment Christ s'est manifesté et sans effort, comme j'ai dit tout à l'heure, ça serait une occasion de chute pour vous, vous n'arriveriez pas à me croire. Puis je ne parle pas de ce que je vois à l'étranger, c'est ce que je vois en France, au pays des têtes dures, quoi. Parce que vous savez quoi, Dieu aime la France. Cocorico. Le Saint-Esprit n'est pas sous Valium, il n'est pas sous antidépresseur à cause de la France, il n'est pas découragé par les Français. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est possible en France! C'est possible avec des personnes comme nous. Waouh! Ça, c'est un Dieu des miracles, hein, pour avec des personnes comme nous. C'est possible! On a un grand Dieu et un petit diable. Maintenant, rappelez-vous, il est le Tout-Puissant. C'est pas qu'il a la toute-puissance. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de puissance, j'ai pas besoin qu'il me donne de la puissance, j'ai besoin de lui qui est le Tout-Puissant. Quand j'ai besoin de sagesse, j'ai pas besoin de lui demander de la sagesse, j'ai besoin de Christ, ma sagesse. Quand j'ai besoin de sanctification, j'ai pas besoin d'essayer dans mes propres efforts de me sanctifier, j'ai besoin que Christ soit ma sanctification. En fait, tout revient à lui. Toutes mes sources sont en toi. Et ça, ça change, mais vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et comment je pourrais dire ça autrement? Abraham, il avait une promesse, vous en rappelez? Qu'il allait avoir un fils. Puis il a bossé dans la direction, enfin bossé. Il a couché avec Agar. C'est pas trop bossé, ça. Hein. Mais il a été dans le sens de la volonté de Dieu, quoi. Puis pour l'éthique de l'époque, c'est pas un problème, hein. Donc on n'a pas l'impression qu'il ait péché. Nous, avec notre mentalité occidentale, oh, il était avec l'Égyptienne. Mais à l'époque, ça se faisait, quoi. Les mères porteuses, c'était pas un problème. Donc, Abraham a aidé Dieu dans son plan. Il a récolté un Ismaël, vous vous en rappelez? Puis Dieu, d'un seul coup, lui a dit, c'est pas ça ma promesse. C'est pas ça ma promesse. Et en fait, chacun de nous, Dieu nous fait des promesses, elles sont dans la Bible, hein. Je ne sais pas si vous avez regardé. Et nous, des fois, quand ça tarde, eh ben, y a Agar qui nous tente. Agar, c'est le moyen charnel de parvenir aux promesses de Dieu. C'est les moyens humains pour aider Dieu à accomplir sa volonté. Et on ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'on essaye d'aider Dieu par nos propres forces, eh ben, on enfante des Ismaëls dans nos vies. Ring-a-ding-a-ding. Et qui dit Ismaël dit que ça va engendrer des souffrances. Et dans Galates, c'est écrit que Agar, c'est le mont Sinaï, et elle enfante pour la servitude. Par contre, Sarah, c'est la nouvelle Jérusalem qui enfante pour la liberté. Vous en rappelez? Et en fait, tant qu'on est dans un principe où on essaye d'aider Dieu par nos propres ressources, eh ben, on enfante pour la servitude. On est dans la servitude. Mais dès qu'on compte que sur la grâce de Dieu, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui le fait. Dès l'instant où on s'offre à lui, un peu comme quand l'ange il vient dire à Marie, « Hey, tu vas être enceinte. » Qu'est-ce qu'elle répond, Marie? Elle dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Puis elle s'offre, elle dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Parce que c'est clair, dans un cas comme ça, elle ne peut pas aider Dieu. Vous êtes d'accord? Tu sais, t'as beau te concentrer, ça vient pas, quoi. Donc la vie remplacée, ça parle de ça. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors peut-être vous allez dire, mais comment on est passé au travers de ça là, pendant toutes ces années? Ben, en fait, c'est bizarre qu'on y soit passé parce que c'était écrit, quoi. Vous êtes d'accord? C'est à plusieurs endroits, c'est écrit. Puis il y a un texte dans les évangiles, Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et il ne le dit pas à des païens, hein. Il le dit à des gens qui connaissent les Écritures et peut-être mieux que nous, qui ont la foi dans les Écritures et qui connaissent la puissance de Dieu. Et Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne les comprenez pas. Hein? Ça veut dire que connaître les Écritures et croire, ça ne suffit pas, il faut en plus comprendre, quoi. Moi, je croyais que connaître et croire, tu sais, tu connaissais les versets, tu pouvais distribuer les versets bibliques avec les références, t'es pâté à la galerie, tu pouvais penser que ça suffit, quoi. Puis quand le diable, il vient de taquiner, tu dis, il est écrit, tu sors ton épée, tu sais, il est écrit. Puis on aurait pu penser que ça allait suffire. Non, non, connaître les Écritures et y croire, ça ne suffit pas. On peut être dans l'erreur si on ne le comprend pas. Ça, c'est ce que Jésus dit. Vous êtes d'accord que c'est écrit dans la Bible, hein? Et puis d'un seul coup, ben, on se dit, waouh, alors peut-être que je connais les Écritures, mais que je ne les comprends pas, pourquoi je ne les comprendrai pas? Et je racontais ça ce matin. Une fois, j'étais en train de prier, puis Jésus m'a posé une question. Puis j'aurais dû me méfier. Moi, à chaque fois que Jésus me pose une question, ça veut dire que je n'ai pas la réponse. Puis la plupart du temps, j'ai compris ça, donc je dis, je ne sais pas, comme ça j'ai la réponse plus vite, quoi. Mais ce jour-là, j'ai cru que j'avais la réponse. Il me pose la question, est-ce qu'il y a une puissance qui est plus grande que ma parole? Et là, j'ai joué au premier de la classe, quoi. Moi, monsieur. Puis là, je lui ai dit, non, il n'y a rien qui est plus grand que ta parole. Puis après, je l'ai exhorté au niveau de la Bible, quoi. J'ai dit, parce qu'il est écrit, ta parole ne remonte pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Il est écrit, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Donc, rien qu'à partir de ces deux versets, il n'y a rien qui est plus fort que ta parole. Et moi, je m'attendais à... C'est bien, fils. Une médaille. C'est quoi la réponse du Seigneur quand j'ai fini d'étaler ma science? Il m'a dit, faux. J'avais pas prévu ça. C'est pas ça que j'avais prévu. Et alors j'attendais la suite, je dis quand même, j'espérais qu'il se trompe. Et puis il m'a dit, Matthieu 15, Marc 7, il est écrit, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmise. Et le mot grec pour annuler, c'est vous dépouiller de sa puissance, vous rendez caduque la parole de Dieu par la tradition que vous êtes transmise. Et il y a une puissance qui est plus grande que la parole de Dieu, c'est la puissance de la tradition. Amen. Et la tradition nous met des ornières, la tradition nous met une mauvaise orientation sur la vie chrétienne, nous fait mal comprendre des choses. Et du coup, on a les bons mots, mais on n'a pas les bonnes définitions. Et parce qu'on n'a pas les bonnes définitions, on n'a pas les bonnes applications. Et parce qu'on n'a pas les bonnes applications, on n'a pas la vie qu'on est censé avoir. C'est comme si l'Évangile nous présente un gâteau qu'on pourrait manger, nous en donne la recette, mais on ne suit pas la recette, on voudrait avoir le même gâteau. Quelque chose qui ne va pas, quoi. Et on a vraiment besoin, on est dépendant du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit pour nous un esprit de révélation qui ouvre les yeux de notre cœur, afin, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 1, 18, afin que l'on comprenne. C'est le mot que Jésus a employé quand il dit « vous ne comprenez pas ». Eh bien, afin que l'on comprenne, c'est par le Saint-Esprit qui est un esprit de révélation. On a besoin que les yeux de notre cœur soient ouverts, illuminés. On a besoin qu'il y ait des voiles qui tombent. Parce que la tradition, waouh, elle nous a bien empoisonné la vie chrétienne. Vous êtes d'accord avec ça? Ça nous a voilé, ça a creusé des ornières. Rien que le fait, moi pendant des années, c'est la tradition qui m'a enseigné ça. Faut que je fasse mon maxi pour vivre pour Jésus. Mais c'est même pas écrit dans la Bible ça. C'est faut qu'il vive en moi, c'est pas à moi de vivre pour lui. C'est lui qui veut vivre en moi. Mais ça fait une énorme différence quoi. Ça fait une énorme différence si on se trompe dès le début. Même par exemple pour le mot repentance, c'est un vocabulaire chrétien ça, repentance. On sait à peu près tout ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Question pour un champion. Changer de direction, taper 1. Prendre conscience, taper 2. Repentance, en grec, c'est métanoïa, c'est changement de pensée, changement de point de vue. C'est... Et la plupart du temps, dans les églises où on est bien enseigné, on sait que repentance, ça veut dire changement de mentalité, changement de point de vue. Mais la plupart du temps, on associe la repentance au péché. Mais regardez dans la Bible pour voir si Dieu, lui, il associe la repentance au péché. Et vous allez voir que non. Il n'y a pas que par rapport au péché qu'on a besoin de se repentir. C'est par rapport à tout qu'on a besoin de se repentir. Il y a des mentalités qui ne viennent pas de Dieu, il y a des concepts qui ne viennent pas de Dieu. Au fur et à mesure que ces lumières viennent dans nos vies, on a besoin de s'y conformer, puis on a besoin d'abandonner nos vieux schémas de pensée. Amen. Se repentir, même se repentir de nos péchés. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent « je me suis repenti de mes péchés » pour dire la date à laquelle ils se sont arrêtés de pécher. Mais arrêter de pécher, c'est pas se repentir. Il y a plein de chrétiens, c'est pas vous ça, c'est seulement dans la région de Poitiers. Mais il y a plein de chrétiens qui ne pêchent plus, on croit qu'ils se sont repentis par rapport au péché, mais en fait, non, ils ne pêchent plus parce qu'il y a eu une prédication légaliste, une bonne pression de groupe, une bonne crainte de Dieu, et du coup, ils ont arrêté de pécher, mais le péché, il est toujours aussi désirable. Est-ce que vous me suivez dans ce que je veux dire? Et du coup, le péché, ça devient quelque chose de bon qui nous est interdit. Eh bien, si pour toi le péché c'est quelque chose de bon qui t'est interdit, je veux juste te dire, tu t'es pas repenti par rapport au péché. T'as pas changé de mentalité, t'as la même mentalité qu'avant. La seule chose c'est que dans l'énergie de la chair, t'arrives à mettre des brides à ta chair, quoi. Donc on peut s'arrêter de pécher sans s'être repenti. Est-ce que vous me suivez? Et là, ça parle de la repentance du péché. Mais on a aussi besoin de se repentir par rapport à notre conception de la vie, à notre conception de l'Église, notre conception de la foi, notre conception de la glace. La glace. La grâce. Amen. Il y a plein de choses sur lesquelles on a besoin de se repentir. Pour les hommes, sur ton identité de père, sur ton rôle de père, sur ton rôle d'époux. Est-ce que vous me suivez? Puis là, les femmes, elles disent, oh, yes, yes, amen. Mais les femmes aussi. Sur votre rôle de mère, sur votre rôle d'épouse. Ring, ding, ding. Moi, en principe, je suis partageur. Hein, j'en distribue à tout le monde. Mais on a besoin de changer de mentalité. Puis comme on n'a pas, on pourrait dire, la science infuse, on est dépendant de Dieu. Au fur et à mesure que cette lumière elle va grandissant dans notre vie, eh ben, on abandonne notre vieux système de pensée, puis on accepte le sien. Et c'est ça, marcher dans la repentance. Pour moi, la repentance, ce n'est pas un acte isolé dans la vie, c'est un style de vie. Les gens qui me disent « Oh, je me suis repenti il y a 20 ans », je dis « Waouh, ça fait longtemps hein, que tu n'es pas repenti. Ça fait 20 ans que Dieu ne te donne pas de nouvelle lumière. Wow, tu ne dois pas être au bon endroit. » La repentance, c'est un style de vie. Vous êtes d'accord avec ça? Puis on a besoin de se repentir. De toute façon, dans les évangiles, il n'y a que deux verbes qui caractérisent ce que Dieu attend de nous. Il n'y a que deux verbes, il n'y en a pas plus. Hein. Il n'y a que deux verbes. C'est la prédication de Jean-Baptiste, c'est la prédication de Jésus, c'est la prédication de Pierre à la Pentecôte. C'est « repentez-vous et croyez ». La repentance et la foi, c'est les seules choses que Dieu nous demande. Tout le reste, c'est lui qui va le faire. Notre part, elle se résume à ça, se repentir et croire. On est loin de « il faut faire ceci, il faut faire cela, touche pas ceci, touche cela, fais le beau, t'auras ton sucre ». On en est loin. Est-ce que vous êtes d'accord? Attends, des fois, on prend comme exemple la femme qui vient dire à Jésus, là, Jésus vient lui dire, non, je ne prierai pas pour ta fille. Puis la femme, elle dit, ouais, mais c'est les petits chiens qui peuvent récupérer les miettes qui tombent de la table des enfants. Vous vous en rappelez de ça? Mais des fois, les chrétiens, ils ont une mentalité de petits chiens, quoi. Ils arrivent au culte. Fais le bobo, t'sais. On attend le susuc pendant la louange, t'sais. On se lève quand il faut se lever. On dit amen quand il faut dire amen, alléluia quand il faut dire alléluia. Et qu'est-ce que t'attends? Ton susuc? On ne doit pas avoir une mentalité de petit chien, quoi, de caniche à mémère. Est-ce que vous me suivez? Attends, on n'est pas les petits chiens sous la table des enfants, nous sommes les enfants qui sont à table. Amen! Attends, c'est servi pour nous. Ring-a-ding-a-ding. On a un grand Dieu. Oh, comment tu le sais? On a rencontré le même? C'est pour ça que, pour moi, je ne me lasserai plus maintenant de prêcher sur la vie remplacée. Paul, il est clair hein, dans Colossiens 2, 17. Attends, je vais quand même vous le montrer. Quoi. Colossiens 2, 17. Ah non, 2, 17, c'est ce que je voulais dire après. Non, c'est dans les 1. C'est... Non, c'est pas 1, 24. C'est 1, 27. Voilà le mystère. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et au verset 28, parce qu'on s'arrête souvent au 27. Verset 28, il dit, c'est lui. C'est qui lui? C'est Christ en nous. Vous êtes d'accord? C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait ou complet en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le ministère de Paul, c'était d'annoncer, d'exhorter, d'instruire. Quoi? Sur quel sujet? Sur Christ en nous. Et moi, c'est à ça que je veux consacrer ma vie maintenant. C'est ma quête personnelle, découvrir de plus en plus Christ en moi. Mais c'est en même temps, je sais que c'est une direction que le Seigneur me donne aussi, d'enseignement pour le corps du Christ. Prêcher Christ en nous. Jusqu'à ce que tout homme, mâle ou femelle, soit devenu parfait ou complet en Christ. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est pas de trucs. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis lassé, moi, des séminaires où on me dit 10 clés pour guérir les malades, 15 clés pour amener le réveil, 7 clés pour chasser les démons, 8 clés pour avoir la puissance. Tu crois encore à toi, ça? C'est acheter ma lotion, ça fait repousser les cheveux, ça rapetisse le nez, ça rentre le ventre et ça rend intelligent. Qui c'est qui achèterait une lotion comme ça? T'sais, on n'y croit plus à ça. Mais c'est fou parce que ça, on n'y croirait plus. Et puis toutes ces salades, 10 clés pour la puissance, 15 clés pour la guérison, on y croit encore. Quoi. Tant à la fin, tu as fait plein de séminaires, tu as tout un trousseau de clés, on dirait un gardien de prison. T'sais. Puis tu es devant une porte, tu ne sais plus quelle clé ouvre quelle porte. Quoi.
Attends, bouge pas. C'est...
Attends, utilise le pass. Le pass, c'est Christ. Tu n'as pas besoin de tout un gros trousseau de clés. Est-ce que vous me suivez? Tu as Christ en toi, tu as tout ce qui va avec. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Et moi, je veux juste là, c'est comme mettre du sel sur votre langue là, pour vous donner soif. Mais puis que vous ayez cette soif, je veux découvrir ce Christ en moi. Il y est déjà, mais c'est comme... tu te rappelles quand Jacob, il a fui devant Ésaü? Vous vous en rappelez de ça? Puis il a pris un caillou, il a fait un oreiller, il a dormi, puis il a vu la grande échelle. Vous vous en rappelez de ça? Et ça touchait le ciel, ça touchait la terre, il y avait les anges qui montaient, qui descendaient. Waouh, c'est balèze hein, comme vision. Hein. Attends, il voit une échelle, puis il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Tu te dis, Jacob, t'as fumé quoi là? Tu vois une échelle et tu dis, c'est une maison ou une porte. Il y a quelque chose là. Mais la première chose qu'il a dit, waouh, que ce lieu est terrible. Dieu est ici et je ne le savais pas. Vous en rappelez qu'il a dit ça? Waouh! Ben, nous, c'est ce qui va nous arriver quand on va prendre conscience qu'il est ici puis qu'on ne le savait pas. Waouh! Christ est ici et je ne le savais pas. Je le cherchais dans les réunions, je le cherchais dans les livres, je le cherchais dans les prédications, je le cherchais dans les séminaires, je le cherchais dans mes efforts, je le cherchais dans l'ancienneté. J'ai cherché partout, puis j'arrivais pas à le trouver. On faisait une partie de cache-cache pendant 20 ans. Et puis, il était là. Waouh ! Que ce lieu est terrible ! Dieu est ici et je ne le savais pas. Ring-a-ding. Attends, regarde-moi là, ici. Que ce lieu est terrible ! Dieu est ici et je ne le savais pas. Mais ça va être le cri de tous les chrétiens qui vont prendre conscience de la présence de Christ dans leur vie. Que ce lieu est terrible ! Peut-être on t'a déjà dit que tu n'étais pas terrible. Mais tu peux le dire sur toi-même, c'est terrible. Que ce lieu est terrible, c'est ici. Excusez-moi, j'ai plus la suite. Dieu est ici, mais je ne le savais pas. Amen. Non mais attends, si tu réfléchis bien, c'est puissant comme truc quoi. C'est, tu te regardes dans la glace, tu peux te voir toi, comme tu peux voir un lieu terrible. Où Dieu est ici, puis tu ne le savais pas. T'as vécu comme s'il n'était pas là, alors qu'il était là. Du coup, il a été fait selon ta foi. Tu as cru qu'il n'était pas là. Tu n'as pas vécu comme s'il était là. Tu m'as suivi là. Mais dès l'instant où tu commences à rentrer dans la foi, il est là. Attends, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Que ce lieu est terrible. Dieu est ici, je ne le savais pas. Je suis une maison de Dieu. Ça sert à quoi une maison? Ça sert à être habité. Vous êtes d'accord? C'est pas pour décorer, quoi. Ça veut dire, je suis une habitation de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Waouh, mais quand vous réfléchissez à ça, c'est balèze. Ça sert à quoi une porte? Puis à sortir aussi. C'est un lieu de passage. Vous êtes d'accord? Ça veut dire, la porte du ciel, c'est l'endroit où le ciel va passer pour venir sur la terre. Waouh, que ce lieu est terrible! Dieu est ici, je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici que Dieu habite, c'est ici la porte du ciel, c'est par là que le ciel passe pour envahir la terre. Eh bien, quand tu commences à avoir une vision comme ça de toi-même, je peux te dire, ça change tout. Amen. Waouh, que ce lieu est terrible. Waouh, il est ici, je ne le savais pas. Je vais prendre soin maintenant, quoi. Je vais prendre plus souvent des douches. Ou moins souvent, je ne vais pas user le temple de Dieu. Que ce lieu est terrible. Dieu est ici et je ne le savais pas. Mais la plupart d'entre nous, Dieu est là dans nos vies et on ne le sait pas. On le sait dans la boîte à poux, là, mais ce n'est pas descendu dans le cœur. Est-ce que vous me suivez? On le sait doctrinalement, mais on ne le sait pas par révélation. Que ce lieu est terrible. Attends, ce lieu-là, il y a une échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Tu as déjà réfléchi à ça? Des anges qui montent et qui descendent? Ça monte, ça descend. Waouh! Tu sais comment on les fait bouger, les anges? C'est écrit dans le psaume 103, au verset 20. Psaume 103, verset 20, c'est écrit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui obéissez à la voix de sa parole. Psaume 103, au verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui obéissez à la voix de sa parole. Waouh! La voix de sa parole, en hébreu, c'est kol adabar. La voix qui sort de la parole. Vous qui avez vos Bibles, mettez votre Bible à côté de votre oreille. Si, allez-y, vous n'êtes pas filmé. Mettez votre Bible à côté de votre oreille. Les anges obéissent à la voix qui sort de la parole. Est-ce que vous entendez des voix? Est-ce que vous entendez une voix qui sort de votre Bible? Vous avez changé les piles dernièrement? Vous avez remarqué qu'il n'y a rien qui sort? Alors ils obéissent à quoi, les anges? C'est bien écrit à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20, c'est écrit. En fait, tu sais quand est-ce que sa parole, elle a de la voix? C'est quand tu confesses la parole de Dieu. C'est quand tu parles la parole de Dieu. Tu donnes une voix à sa parole. Et ces anges, ils obéissent à la voix de sa parole. À chaque fois que tu parles la parole de Dieu, tu mets les anges en action. La Bible ne nous encourage pas à croire qu'on a des ordres à donner aux anges. Toi, fais ceci, toi, fais cela. Non. Ils obéissent à Dieu. Ils exercent un ministère en notre faveur, mais ils ne sont pas nos boys. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais ils obéissent à la voix de la parole. À chaque fois que tu parles la parole de Dieu, tu mets les anges en action. Il y en a, ça fait tellement, ils n'ont pas parlé, les anges, ils sont figés sur l'échelle. Tu sais. Mais quand est-ce qu'il va parler? Je commence à avoir une crampe. Mais plus tu vas la parler, plus tu vas avoir des échelles. C'est une deux voix, une trois voix, une deux fois deux voix, c'est par au milieu. Ils vont pouvoir se doubler. Plus tu vas parler, plus il va y avoir du trafic. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais tant que tu vas te taire, tant que tu vas confesser tes malheurs, tant que tu vas parler de ta pomme, tant que tu vas parler de tes problèmes, « Oh, pauvre de moi, je suis vraiment malheureux. » Ben les anges, ils ne bougent pas. T'sais. Quand est-ce qu'il va parler? Au contraire même, quand tu parles de tes problèmes, il y a une autre échelle qui monte de l'enfer et puis qui vient sur terre. Puis à chaque fois que tu parles de tes problèmes, là, tu actives les démons. C'est... On arrive. On vient confirmer ce que tu dis. Parce que, tu sais quoi? C'est par les paroles de ta bouche que tu seras sauvé aussi. Et puis, c'est du fruit de la bouche qu'on se nourrit, quoi. on remplit notre ventre du fruit de notre bouche. La mort et la vie, c'est ton pouvoir de la langue, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi j'ai dit tout ça? Ah ouais. Que ce lieu est terrible! Dieu est ici et je ne le savais pas! Même Paul, ça y est arrivé. Il dira dans l'Épître aux Galates, je crois que c'est Galates 1:6. Il dit, quand il a plu au Père de révéler son Fils en moi, littéralement, son Fils à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, il y a eu toute une période où il n'avait pas la révélation du Fils de Dieu en lui. Mais il y a eu un temps où il a plu au Père de lui révéler son Fils à l'intérieur de lui. Waouh ! Que ce lieu est terrible ! Tu es ici et je ne le savais pas. Amen. Puis moi, ma prière, c'est que vraiment, nos yeux s'ouvrent sur la présence de Christ dans nos vies. Sur Christ à l'intérieur de nos vies. Tant ce qui compte, c'est pas tout ce que tu as compris. Ce qui compte, c'est pas tout ce que tu fais. Tu sais quoi? Je vais être assez trash, quoi. Mais on s'en fout de ton CV chrétien, quoi. Ce qui compte, c'est Christ en toi. Amen. Si Christ est en toi, c'est bon. Si Christ n'est pas en toi, ouais, c'est bien. T'as fait. C'est mieux de vivre pour Dieu que vivre pour le diable. Mais bon, au bout du compte, je dirais c'est presque pareil. T'as perdu ta vie. C'est des œuvres mortes. La Bible nous demande de nous repentir des œuvres mortes. Qu'est-ce qu'une œuvre morte? C'est ce que tu fais pour Dieu sans qu'il soit dans l'affaire. Les seules œuvres qui comptent, c'est les œuvres qui sont faites en Christ, pour Christ et par Christ. Amen. Oh, j'ai peut-être arrêté de parler de lui, hein. On va le laisser nous parler. Et si on priait? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on prie? On prie que Christ bénisse nos efforts? On prie pour progresser dans notre vie chrétienne? Vous avez écouté alors? On prie pour avoir des clés pour faire tomber le ciel sur la terre? Wow. Alors on prie pour quoi? Pour la révélation de Christ en nous. Pour la révélation qu'on est mort en Christ. Une fois, l'autre coup, on était à Toulon. Toi, Bertrand, tu étais là, hein, à Toulon. Et je leur dis, l'évangile, ça se résume en un mot. C'est crève. Et j'en étais comme ça. Je dis, mais c'est ça, en fait, l'évangile. Tu vas goûter à la vie que quand tu vas être mort, une bonne fois pour toutes, quoi. Puis les gens, ils ont vraiment compris. Puis ils sont sortis de l'église, ils se bénissaient. Ils disaient, va crever. Bon, je dis, écoutez, pour les gens qui n'étaient pas là, c'est à manier avec précaution, quoi. Ils vont peut-être pas comprendre, quoi, que c'est une bénédiction. Mais quelque part, c'est vrai, quoi. Moi, je te souhaite une bonne mort en Christ. Rapide, quand il va commencer à tailler, ne te retire pas, sinon tu auras juste une cicatrice, tu ne seras pas encore mort. Mais une bonne mort en Christ pour que Christ puisse vivre en toi, quoi. Amen. On prie pour ça. Vous dites oui, mais vous êtes des malades. Vous voulez mourir? Ok, ben je me mets d'accord avec vous. On va être exaucé. Hein. Eh bien, Seigneur, merci pour ta grâce. Je te demande, Seigneur, que tu parcours les rangs, que tu laisses personne d'intact. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, Jésus. Interviens. Seigneur, je proclame que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même. Seigneur, révèle-toi. La seule chose qui nous intéresse, c'est toi dans nos vies. Seigneur, il faut que tu croisses et qu'on diminue. Il faut que tu paraisses et qu'on disparaisse. Viens, Seigneur. Viens. Seigneur, je te demande que tu nous éduques, que tu nous apprennes. C'est quoi la mort en Christ? Apprends-nous, Seigneur, à prendre notre croix chaque jour, à renoncer à nous-mêmes et à te suivre. Seigneur, apprends-nous à être des disciples. Seigneur, c'est même pas naturel chez nous. On a besoin, même pour ça, on est dépendant de toi. On a besoin que tu nous apprennes. Seigneur, merci. Merci pour la réforme que tu démarres dans les cœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Entre tes mains, on remet nos vies. Puisqu'on te donne, on ne veut pas le reprendre. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est presque fini. Petite page de pub. Et je me suis rendu compte que depuis la dernière fois, en fait, hier soir, je vous ai dit, j'ai un nouveau livre. Mais depuis la dernière fois que je suis venu, j'ai deux nouveaux livres, en fait. Il y en a un qui est sorti juste après que je sois venu la dernière fois. Donc, les autres, je ne vais pas vous les présenter. Hein. Il y en a sur la guérison, un sur la foi. C'est des livres, ça fait assez longtemps qu'ils sont sortis. Mais j'ai sorti un livre sur le Saint-Esprit. J'ai mis 13 ans à l'écrire. Et dedans, il y a 100 révélations. Et puis, tu en as 40 autres que tu travailles toi-même. En tout, il y a 140 révélations. 140 bénéfices de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Comment se les approprier, comment les vivre concrètement. Puis en Suisse, on m'a fait un compliment, on m'a dit « Waouh, enfin un livre chrétien qu'on peut lire aux toilettes. » Parce que les chapitres sont courts. Pas parce que le papier est doux, hein. Mais parce que les chapitres sont courts. Tu peux le lire et puis c'est comme un livre de méditation quotidienne en fait. Et c'est un livre qui peut vraiment booster ta vie. Mais... Donc celui-là, je vous en ai un peu parlé parce qu'il y en a qui ne le connaissaient pas. Mais je vais surtout vous parler du tout dernier. Ça fait un mois qu'il est sorti. Puis c'est un livre sur mon témoignage. Et dedans, je présente une tranche de vie avec des photos de l'époque. Et je parle de Jésus sans employer un langage chrétien, sans employer un patois de Canaan. Et je l'ai sorti moi-même, il n'y a aucune maison d'édition qui l'a sorti, je l'ai sorti moi-même pour pouvoir le vendre au prix que je veux. Puis le prix, il est fixé à 3 euros, c'est même pas le prix d'un paquet de clopes, quoi. Puis je vais tout de suite vous dire, vous annoncer la couleur, le livre, je ne l'ai pas écrit pour vous. Je l'ai écrit pour ceux qui sont dehors. Mais peut-être que pour qu'eux, il l'est, ça va passer par vous. Et puis bon, ça, en même temps, ça peut être bien pour vous quand même, hein. Mais à l'origine, je ne l'ai pas écrit pour les chrétiens. Je l'ai écrit pour les non-chrétiens. Donc dedans, il y a mon témoignage en version complète. Ce n'est pas la version light. Et à la fin, donc forcément, ça va déboucher sur Jésus, quoi. Puis à la fin, il y a deux chapitres, deux appendices qui nous donnent des pistes de réflexion pour annoncer Jésus aujourd'hui avec une pertinence et puis de manière contemporaine, quoi. Parce que des fois, j'entends les chrétiens évangéliser dans la rue. Oh, je voudrais pas être les gens qui sont en face, quoi. Je me dis, waouh, on n'est plus dans les années 70, quoi. Tu sais, t'as les jeunes qui ont été qui ont fait littéraire, qui sont tapés de la philo. Si tu vas avec ton évangile à l'eau de rose, ils vont te balayer en deux questions, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je cherchais des outils, puis j'en trouvais pas. Puis je me suis dit, plutôt que de continuer à chercher, pourquoi on n'en ferait pas un? Puis je ne dis pas qu'il n'y a que celui-là, on peut compléter la caisse à outils, quoi. Mais en tout cas, c'est un outil qui est testé et ça peut vraiment servir. Et la vision, c'est vraiment que ça soit diffusé et donné aux non-chrétiens. C'est pour ça qu'il est, il est pas cher, parce que c'est plus facile de donner un livre de 3 euros qu'un livre de 10 euros.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.